on pourrait se poser la question de l'autonomie réelle, comment dire, de l'enfant qui construit des stratégies à travers un jeu vidéo. Au fond, il y a un programme duquel l'enfant ne peut pas s'extraire. L'enfant ne peut pas modifier le programme.
Alors, si, parce que si l'enfant est très curieux et qu'il a envie de dépasser ses limites, il pourra le hacker, le logiciel, il pourra le craquer, il pourra le recoder à sa manière, comme beaucoup de jeunes le font aujourd'hui. Des gamins de 10-12 ans qui refont leur logiciel ou qui réussissent à trouver le code source pour en faire leur propre mode, qu'ils vont mettre en ligne parce que ce qu'ils avaient à leur disposition ne leur convient pas, il y en a beaucoup. On a tous une manière en fait de mettre en place des objectifs sur un même jeu. Personne ne fera la même chose exactement parce qu'il y en a qui vont être plus sensibles à l'univers visuel, d'autres à l'univers sonore. Et là, on rentre dans les intelligences multiples, en fait. On est sensible, chacun, à des choses différentes, à de la spatialité, à de la rythmique, à de la narration, à de la réflexion personnelle, à de la collaboration, à de l'analyse de déduction, de phénomènes logiques. On a tous, en fait, notre sensibilité. Et donc, un jeu, le même jeu, on le regardera tous avec un prisme qui sera en fonction de notre passif, de notre sensibilité, de nos failles, de finalement ce qui transpire de nous sans qu'on veuille le savoir. Et puis finalement, tous ces jeux, ils sont régressifs. Hein, et puis nos téléphones. Moi, ce que j'adore expliquer aux gens, c'est regarder nos téléphones. Les adultes ne veulent pas jouer parce que c'est pas crédible, il faut pas régresser, il faudrait pas quand même être pas sérieux. On est des adultes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à caresser nos téléphones, à jouer avec, à les laver, à prendre soin. Mais on les caresse vraiment au sens sensoriel,
du terme.
Sensuel et sensoriel. Donc, on est sur ce rapport-là qui est fusionnel un peu avec nos objets. On y met du corps, on y met nos mains, on y met... C'est un peu une continuité, c'est une sorte de prothèse qui va au bout de...
On peut dire qu'on y met du désir.
On y met du désir, on y met de la jouissance, on y met notre sociabilité, on y met nos points de repère. Voilà, aujourd'hui, nos téléphones, c'est tout. C'est Google Maps pour se repérer dans l'espace, ça fait un navigateur pour GPS, ça fait page jaune, ça fait recherche Internet, ça fait appel. Mais c'est aussi pour notre banque, c'est pour nos mails, pour le privé, pour le pro.
Donc, la question qui se pose, est-ce que le ludique, et nous sommes... ici à Ludovia, est-ce que le ludique est un avenir prometteur, l'avenir prometteur de l'école, de l'éducation, puisque là nous nous préoccupons essentiellement du numérique éducatif? Est-ce que le jeu peut être une solution, ou est-ce qu'il n'est pas un leurre possible, un piège, si on considère que le travail, c'est l'abnégation, c'est la confrontation à une réalité qui nous résiste, voilà.
Alors pour moi, ce sont des leviers. Les outils numériques, que ce soit des jeux ou Internet, les réseaux sociaux, c'est des leviers, c'est des outils qu'on peut utiliser pour des fins sérieuses, qu'on peut... exploiter pour réussir à renforcer un apprentissage ou à permettre d'expérimenter des situations qu'on ne pourrait pas expérimenter dans la vie réelle, parce qu'à travers le jeu et l'essai-erreur, on peut expérimenter des choses ou collaborer sur des modes qui, dans la réalité, sans le numérique, ne seraient pas possibles. Mais c'est des leviers. Moi, je ne suis pas pour le ludique absolu. Le jeu absolu, le mettre du ludique partout, non, parce que on n'est pas là pour amuser la galerie et pour faire en sorte que les gamins ne soient habitués qu'à des points d'expérience et de gratification permanents. On ne peut pas éduquer des enfants dans un système de points permanents où tout est magique et si jamais on n'a pas de points, il se passe rien. Non, il y a aussi une réalité et des contraintes à apprendre, à appréhender et qu'on doit solidifier auprès des enfants. Mais par contre, c'est des leviers. Donc, on peut s'en servir. Mais c'est-à-dire que pour moi, le problème, c'est qu'on a des super pédagogues qui feront passer de manière ludique les messages des jeux sans utiliser de jeu ou sans utiliser de numérique, en utilisant juste les codes dans le réel, parce qu'ils ont assez de compréhension de ces mondes-là pour pouvoir faire un transfert de compétences, un transfert d'une réalité à une autre, en fait. Donc quand on utilise un fonctionnement de jeux vidéo en classe, en cooptation, en mettant des points d'expérience, ou on fait des jeux de rôle façon Classcraft, où on gagne des points et on a le droit d'ouvrir la fenêtre si on le souhaite, c'est de la logique comportementale avec laquelle je ne suis pas forcément en adéquation. Mais pourquoi pas, c'est des leviers qu'on peut avoir à notre disposition sans utiliser le numérique, mais en comprenant dans quoi sont immergés les jeunes aujourd'hui, dans quel fonctionnement ils sont, dans quelle groupalité ils sont, avec quoi ils sont habitués à être en interaction, ou en tout cas en présence. Et donc, c'est des outils qu'on peut mettre en place. De la même manière que je vois des gens qui pensent avoir une super pédagogie parce qu'ils utilisent des jeux ou du numérique, et c'est la pire des choses parce qu'ils utilisent ça dans un mauvais contexte, qui ne mettent pas le bon discours et qui ne mettent pas les bons objectifs. Donc si on met finalement des élèves tout seuls face à un ordinateur, face à un jeu, et qu'on leur explique rien, et qu'on ne capitalise pas dessus ni avant ni après, bah, honnêtement, il vaut mieux pas en utiliser.
D'accord. Donc,
c'est-à-dire que c'est vraiment... C'est pas le jeu qui va faire l'apprentissage, c'est pas le numérique qui va faire l'apprentissage, c'est pas le livre qui va rendre intelligent qui que ce soit.
C'est la pédagogie, c'est... toujours.
Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en comprend ?